RFJ Info.
Le journal de Léonie Adrover.
Bonsoir. Le groupe de rock jurassien Fou va reprendre le chemin des studios. 13 ans après son dernier album, la formation de Christophe Meyer s'envolera pour les États-Unis en février pour y enregistrer une douzaine de nouveaux titres sous la direction d'un célèbre producteur. Delémont aussi se souvient de la Grande Guerre. L'armistice du 11 novembre 1918 a été commémoré ce matin au cimetière lors d'une cérémonie. Un hommage aux Suisses engagés dans les armées françaises et aux Français de Suisse mobilisés lors du conflit. La toute fraîche section prévotoise du PCSI Jura se lance dans l'arène. Le parti a présenté ce matin son programme en vue des élections municipales du 25 novembre avec un élément clé à promouvoir, la convivialité de Moutier. Des passages nuageux sont prévus cette nuit, mais pas de pluie dans un premier temps. Comptez avec du brouillard demain matin, puis avec des précipitations faibles à modérées dans la journée. La suite de la semaine s'annonce anticyclonique. Christophe Meyer va réaliser un vieux rêve. Le chanteur, compositeur et guitariste Ajoulot va reformer son groupe Fou pour un 7e album qui sortira 13 ans après le dernier. Il sera accompagné du batteur Diego Rapacchietti et du bassiste Sébastien Bandelier. L'opus, qui comptera une douzaine de chansons rock, sera enregistré en février aux États-Unis, à Chicago. Il sera produit par Steve Albini, qui a travaillé avec plus d'un millier de groupes, dont Nirvana et les Pixies. Une idole pour Christophe Meyer.
C'est un peu ça qui a relancé la machine Fou, c'est que cet été, au culot, j'ai écrit à, pour moi, un des meilleurs producteurs au monde de disques, Steve Albini, qui a enregistré, entre autres, Nirvana.
Steve Albini, c'est aussi une philosophie de travail particulière.
Oui, c'est quelqu'un qui travaille très vite. Un enregistrement doit se passer le temps de la durée d'une chanson, en fait. Il va faire quelques prises, une, deux prises, mais on va pas rajouter des chœurs, des violons, des jeux de je sais pas quoi. C'est vraiment le son. Il a cette faculté d'enregistrer ce que le groupe apporte et 112 000 corrections derrière.
Mais qu'un son un peu rétro.
Oui, il enregistre encore sur bande, donc il travaille pas en digital. Et ça, pour moi, je trouve juste fantastique. Le tout premier disque que j'ai enregistré en 85, j'avais 18 ans, c'était encore avec des bandes. Et retrouver ce son un peu plus chaleureux des bandes, c'est une technique à l'ancienne. Oh, je me réjouis.
Christophe Meyer répondait à Émilie Mumenthaler. Le coût de production de ce nouvel album intitulé « Vieux fou » est estimé à 40 000 $. Un financement participatif a été lancé. Une tournée devrait suivre en automne 2019. Plus de détails sur le site groupefou.ch. Le Jura perd un amoureux de la langue française. André Vis est mort à l'âge de 71 ans, selon une information publiée aujourd'hui sur le site du journal Le Temps. Natif de Saint-Ursanne, André Vis avait été professeur de français à l'université de Lausanne avant de devenir doyen de la faculté des lettres de 2002 à 2006. Il était connu pour ses travaux sur les auteurs jurassiens, dont Alexandre Voisard et Jean Cutat. André Vis avait notamment publié un livre intitulé « Anthologie de la littérature jurassienne 1965 à 2000 ». Il avait aussi occupé durant de nombreuses années la fonction d'examinateur de français pour l'obtention du baccalauréat à Porrentruy. Sonneries aux morts, cantiques suisses et marseillaises ont résonné ce matin à Delémont. Une cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, s'est déroulée devant le monument aux morts érigé dans le cimetière de la capitale jurassienne. Elle visait à honorer les Suisses qui se sont engagés volontairement dans les armées françaises, ainsi que les Français domiciliés en Suisse qui ont été mobilisés, soit près de 3000 soldats au total. La cérémonie s'est tenue en présence notamment du lieutenant-colonel Pierre Petet, adjoint au commandant de la base de défense de Belfort. François Comte lui a demandé si le souvenir de la Grande Guerre était encore bien présent dans l'esprit des soldats qu'il commande. Pierre Petet.
Évidemment, ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, mais donc ils ont, pendant ces 4 années de commémoration de la Première Guerre mondiale, bien évidemment, soit lorsqu'ils étaient encore à l'école, ils ont reçu toute cette information dans l'histoire de la France, évidemment, et puis pendant leur première année d'activité au sein de l'armée française, évidemment, on les a incités à se rendre au monument aux morts, et là, plus particulièrement cette année, notamment, là, j'ai présidé 15 cérémonies depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui ce matin.
Et c'est votre première cérémonie finalement transfrontalière franco-suisse?
Ah, tout à fait, c'est la première fois et je suis très honoré de pouvoir avoir eu l'honneur de rendre hommage à ces combattants suisses. Bon, je ne vais pas dire que j'ignorais totalement leur acte de courage, mais presque, quoi. Parce que c'est vrai que pour la France, les 1,4 million de combattants français décédés, ça pourrait peut-être paraître anodin, 3 000 combattants suisses sur le territoire national. Mais je suis très honoré d'avoir pu les honorer, parce que c'est un moment très émouvant pour moi.
Le PCSI veut mettre en avant la convivialité de Moutier. La section prévotoise du Parti jurassien est entrée en campagne ce matin en vue des élections municipales du 25 novembre. Il s'agit de sa première apparition sur la scène politique à Moutier, étant donné que la section a été créée le 22 mai dernier. Le PCSI propose 15 candidats au conseil de ville. Il a en revanche renoncé à présenter quelqu'un au conseil communal. Candidat aux législatives et président de la section prévotoise du PCSI Jura, Julien Berthold nous explique pourquoi les candidats souhaite promouvoir la convivialité de la ville.
C'est vraiment de donner une meilleure image, parce qu'on remarque quand même que les gens qui viennent de l'extérieur ont une mauvaise image de Moutier, on va dire. Il y en a qui disent que c'est un trou entre les montagnes, mais je pense que Moutier a beaucoup d'atouts qu'il faut promouvoir, et puis nos candidats sont des très bons ambassadeurs de cette qualité de vie prévotoise.
Justement, au niveau de l'attractivité, c'est aussi par là que vous souhaitez passer finalement dans le domaine des finances. Vous dites que vous ne voulez pas forcément faire de coupe, etc., mais renforcer l'attractivité de la ville pour aussi attirer de nouveaux habitants.
Tout à fait. Alors on pense que si aller couper aveuglément dans les prestations, c'est un peu la solution de facilité. Ça permettra à très court terme de faire quelques économies, mais à long terme, c'est absolument pas viable, parce que c'est le qui se mord la queue, parce qu'au final, notre ville perdra en attractivité, donc forcément moins d'habitants, moins de commerce. Ça va être très compliqué si on part dans cette voie-là.
Julien Berthold au micro d'Alexandre Rosset. La section prévotoise du PCSI Jura espère obtenir 3 à 4 sièges au conseil de ville. Alain Schweingruber adresse une demande d'information au gouvernement bernois. Le député PLR au Parlement jurassien a envoyé aujourd'hui une lettre au conseil exécutif au sujet de l'invalidation du vote communaliste de Moutier. Il lui demande de répondre à plusieurs questions en se basant sur la loi cantonale bernoise sur l'information du public. Alain Schweingruber souhaite notamment savoir pourquoi la procédure préfectorale a duré plus d'un an et demi. Il demande également au conseil exécutif s'il est exact que les cartons contenant le matériel de vote ont été ouverts. Les préfets bernois, eux, s'insurgent contre les accusations qui visent Stéphanie Niederhauser. Dans un communiqué transmis aujourd'hui, le directoire des préfets du canton de Berne dénonce une campagne de dénigrement envers la préfète du Jura bernois après l'invalidation du vote du 18 juin 2017. Il estime que les tentatives de mise en doute de l'autonomie et de l'indépendance de la préfète représentent un manque de respect envers la personne visée et les institutions démocratiques. Le directoire des préfets bernois affirme que les préfets assurent leur tâche en toute indépendance et sans recevoir de consignes du gouvernement. Le canton de Berne doit revoir la manière dont il aborde le bilinguisme. Une commission d'experts chargée d'élaborer un rapport sur la question a rendu ses conclusions aujourd'hui. Elle propose 46 mesures pour mieux valoriser le potentiel offert par la cohabitation de deux langues et de deux cultures sur le territoire cantonal. Elles font notamment suite à un sondage réalisé auprès de 500 personnes issues des 5 régions administratives. Les précisions d'Alexandre Steiner.
Créer une loi sur le bilinguisme, accroître la population francophone et améliorer les compétences dans les deux langues du personnel de l'administration cantonale. Ce sont 3 des principales recommandations des experts. Le canton doit renforcer 3 axes, comme l'explique le président de la commission, le conseiller aux États Hans Stöckli.
D'une part, sa position comme canton bilingue. Deuxièmement, il faut que le canton de Berne soit exemple parmi les cantons bilingues. Et troisièmement, il faut que le canton de Berne soit vraiment le pont entre la partie alémanique et la partie francophone de notre pays comme canton qui abrite la capitale.
De son côté, le vice-chancelier bernois estime que cette nouvelle stratégie doit permettre de mieux répondre aux défis actuels. David Gaffineau.
C'est aussi une façon de dire maintenant on tourne la page d'une certaine époque, notamment liée à la question jurassienne, où ce qu'on faisait pour les francophones ou pour le bilinguisme était plutôt défensif, une manière de vouloir protéger le territoire du canton, voir ce qu'il fallait faire pour éviter que le canton perde une partie de sa population. Et l'idée, c'est maintenant d'en sortir.
Les mesures proposées par la commission d'experts sur le bilinguisme doivent servir aussi bien les Bernois francophones qu'alémaniques. Le rapport passe désormais en main de la chancellerie d'État. Elle a jusqu'au 30 juin prochain pour proposer une mise en œuvre de ses conclusions.
Il y a 100 ans, jour pour jour, 250 000 travailleurs de Suisse se mettaient en grève. La grève générale de 1918 se déroule dans un contexte de crise. Après le déploiement de l'armée dans les villes et la dissolution violente d'une manifestation à Zurich quelques jours plus tôt, au Parlement, les débats sont tendus autour de l'événement et le Conseil fédéral lance un ultimatum aux grévistes qui mettent fin à leur action le 14 novembre, alors que l'armée se mobilise. Il n'y aura plus de mouvements de pareille ampleur en Suisse, mais de petites grèves comme celle des maçons récemment. Paul Steiner, président de l'Union syndicale suisse.
peut-être c'est l'ironie qu'un pays où on ne s'est plus habitué à ce droit fondamental de la grève, les grèves sont ultra efficaces parce que la grève est utilisée seulement s'il y a une nécessité, une urgence, comme après la Première Guerre mondiale avec ce grand cri populaire contre les injustices sociaux, contre les injustices politiques. Il a fallu ce grand mouvement de la grève générale. Maintenant, c'est la même chose avec la grève des femmes. Il faut que la Suisse change quelque chose. La Suisse a été un État précurseur et ces nouveaux mouvements montrent qu'il y a aussi nouveau un développement de ces forces progressistes.
La grève nationale des femmes est prévue le 14 juin de l'année prochaine. Elle aura pour principale revendication l'égalité salariale.
Il est 18h11 sur RFJ.
Le sport avec la Loterie Romande.
Les footballeurs jaunes et noirs rangent les crampons dans l'armoire avec des sentiments bien différents. Les SR de Léman et le FC Basse-Cour ont bouclé leur première partie de saison ce week-end. Les SRD sont en course pour jouer les finales d'ascension du championnat de Première Ligue. Quatrième du classement, les Delémontins ne sont qu'à trois longueurs d'une place qualificative qui sera clairement l'objectif du printemps prochain. L'entraîneur et directeur technique des SRD, Philippe Rossinelli.
Si on veut viser les finales, il nous faut trouver un joueur qui est un peu un calibre au-dessus pour améliorer un peu notre qualité de jeu. Je pense qu'il nous manque encore ce joueur comme à l'époque qu'on avait, on ne veut pas toujours y revenir, mais on avait un Boudry ou on avait des gens de ce genre-là qui venaient de Ligue supérieure, qui avaient une expérience de première division française, qui apportait ce petit plus, parce que faire des finales pour faire des finales, c'est pas très intéressant. Si on fait les finales, il faut déjà avoir construit une équipe qui pourrait être compétitive au niveau supérieur, sinon ça ne sert à rien.
Le FC Basse-Cour, lui, va devoir encore lutter pour assurer son maintien. Il boucle l'automne à la dernière place de son groupe. Pour autant, le FCB n'est pas décroché. Il a deux points de retard sur la barre. Ce scénario fait figure de déjà-vu du côté des Grands Prés. Dès lors, fait-on toujours confiance à l'entraîneur Anthony Sirofo ? Question posée au directeur technique du FC Basse-Cour, Fabrice Ribaud.
Anthony Sirofo est toujours l'homme de la situation au FC Basse-Cour. Oui. Je crois que ses compétences humaines et technico-tactiques ne sont pas à discuter. On n'a pas d'erreur de coaching ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt les 11 gars qui sont sur le terrain sur lesquels on a plus de difficultés à comprendre ce qui s'est passé.
Et c'est là que ça risque de bouger durant l'hiver au FC Basse-Cour ?
On s'y attelle depuis une quinzaine de jours. On en discute. On a encore discuté toute cette semaine avec les joueurs. On avisera, mais certainement qu'il y aura deux ou trois retouches. Oui.
Fabrice Ribaud et Philippe Rossinelli que vous retrouverez plus longuement sur rfj.ch. Les deux hommes étaient les invités de la matinale aujourd'hui. Brel Embolo éloigné des terrains de football pendant au moins 6 semaines. L'international suisse souffre d'une fracture du pied. Il ne pourra donc pas tenir son poste avec l'équipe de Suisse mercredi soir contre le Qatar et dimanche face à la Belgique en Ligue des Nations. En tennis au Masters de Londres, l'Allemand Alexander Zverev a disposé du Croate Marin Cilic en deux manches, 7-6, 7-6. Dans l'autre rencontre du groupe, le numéro 1 mondial Novak Djokovic affronte l'Américain John Isner. Le match débute à 21h. La 40e édition de la Route du Rhum s'est jouée la nuit dernière par une lutte bord à bord au large de la Guadeloupe. Francis Joyon a coiffé au poteau François Gabart après 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes en mer. Au terme de plus de 3 500 milles nautiques de course, les deux hommes ne sont séparés que par 7 minutes et 8 secondes d'écart. À 62 ans, Francis Joyon a abaissé au passage d'une petite heure le record de cette transatlantique en solitaire, détenu depuis 2014 par Loïc Perron. Alan Roura, lui, ne pense pas pouvoir franchir la ligne d'arrivée avant samedi soir. Il est actuellement 6e de sa catégorie des monocoques. Comme il le dit lui-même, le Genevois navigue quelque part entre Saint-Malo, son point de départ, et Pointe-à-Pitre, site d'arrivée.
Alors là, je suis au beau milieu de nulle part, on pourrait dire ça comme ça. C'est à peu près à 1000 km des Canaries, 1000 km en dessous des Açores. Oui, au beau milieu de l'Atlantique. Là, j'estime une arrivée pour dimanche, j'espère samedi soir, mais potentiellement dimanche dans la journée à Pointe-à-Pitre, suivant les conditions. Donc ça va aller assez rapidement maintenant qu'on se retrouve dans les alizés.
Lorsqu'on est comme ça, au beau milieu de nulle part, on ne se sent pas trop seul par moment?
Oh non, il y a toujours des choses à faire, et puis je suis pas vraiment seul, j'ai deux de mes camarades qui me collent derrière là, donc c'est comme s'ils étaient avec moi, il y a le stress, il y a tout est là, non, je suis pas seul du tout, au contraire, je suis même accompagné et de près. Et moi j'aime bien aussi ces moments-là, c'est ce que je viens chercher aussi dans la course au large, donc la solitude de 1 me dérange pas, et non, je suis pas vraiment tout seul.
Des propos recueillis par Marcel Neuenschwander. Très belle soirée.
Les nuages seront nombreux cette nuit, mais ne devraient s'activer qu'en matinée. Le réveil se fera sous le brouillard et si les précipitations s'annoncent faibles à modérées, les éclaircies, elles, seront timides. Les températures demain toujours seront à la baisse, mais resteront tout de même agréables pour la saison. Elles oscilleront entre 7 et 8 degrés à l'aube pour atteindre des maximales de 13 degrés.